40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40 comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Si Louis-Alexis de Gemini, CMO Monde de Deezer, a donné le « la » sur 40 nuances de Next, nous attendions avec impatience son « si ». Le « si vous deviez mettre en lumière une femme entrepreneur que vous admirez ». Sans hésitation et sans aucun bémol, Louis-Alexis a choisi, et c'est donc avec un immense plaisir que je reçois sa sista, Clotilde Chalot, fondatrice de Nomad Play. Bonjour Clotilde.
Bonjour.
Alors, avis aux amateurs de musique et de technologie, vous pouvez donc dégainer vos dièses et autres hashtags pour partager cet échange avec celle qui a repensé l'apprentissage de la musique. Alors, pour que tout le monde parte avec les mêmes infos, Clotilde, je te propose le passage un petit peu obligé de tout entrepreneur qui est le pitch.
Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch.
Alors, ça dépend, vous le voulez en 30 secondes, une minute ou 4 minutes, le
comme
pitch.
Comme tu veux.
L'exercice. Alors, Nomad Play permet à tous les musiciens, donc tout instrumentiste, piano, violoncelle, clarinettiste, de quel que soit leur niveau d'ailleurs, qu'ils soient débutants ou grand artiste, grand concertiste, en fait, Nomad Play permet de supprimer le son d'un instrument dans un enregistrement, qu'il soit live ou studio. C'est-à-dire que Nomad Play offre une bibliothèque de morceaux où vous trouverez et partitions et musique enregistrée et vous pouvez supprimer n'importe quel instrument comme un karaoké finalement. Là où vous n'avez pas les paroles mais les notes qui suivent. Donc Nomad Play est destiné aux établissements pédagogiques, universités, conservatoires, Hochschule en Allemagne et écoles de musique et également destiné à un grand public et donc disponible sur les Google Store, Apple Store et autres sites internet Nomad Play.
Et c'est combien de morceaux aujourd'hui, ce catalogue ?
Alors, actuellement, c'est 100 000 morceaux. Et c'est surtout, c'est moins une masse de morceaux, mais plus du qualitatif. C'est-à-dire que, comme on est destiné en priorité aux écoles de musique et conservatoires, il fallait qu'on ait le bon répertoire. Donc, ça nous était inutile d'entrer un maximum d'œuvres, quelles qu'elles soient, mais il fallait simplement les bonnes œuvres, en fait.
Et c'est principalement de la musique classique aujourd'hui ?
Alors, c'est principalement de la musique classique, dite classique. Donc, musique classique qui est destinée pour les débutants. Également de la musique contemporaine. On a Camille Pépin qui est rentrée au catalogue. On a aussi du jazz.
Qui sont les utilisateurs de Nomad Play ?
Alors, les utilisateurs sont essentiellement des musiciens classiques. Donc, ouais. On a des conservatoires français, des écoles de musique françaises également, aussi à quelques universités aux États-Unis. Et on a ensuite les musiciens qui se retrouvent un peu tout seuls dans leur chambre suite justement à leurs cours. Alors, ils étaient en orchestre, ils étaient en musique d'ensemble, en musique de chambre. Et après, en devenant étudiant ou en ayant une vie professionnelle, on n'a plus le temps de se retrouver. Ou alors, on a plus nos copains qui sont partis justement dans d'autres villes. Et on se retrouve tout seul avec notre clarinette ou notre piano dans notre chambre ou notre salon. Et voilà, on perd un peu la main. C'est un peu comme un sportif qui quitte sa ville et son équipe de foot et qui se retrouve un peu tout seul et qui se dit « Tiens, je fais quoi maintenant ? Je fais comment ?»
Quand on voit de bonnes idées comme ça, on a envie de se dire « Mais comment ça se fait que ça n'existait pas avant Nomad Play ?» Est-ce que tu as été la première ? Est-ce que tu t'es inspirée de choses qui existaient ? Est-ce qu'il y avait déjà des acteurs ? Et finalement, comment t'es venue cette idée ?
Alors en fait, l'idée, ouais, je vais commencer par l'idée. Avant, j'ai une carrière de spectacle vivant. Donc en fait, moi, j'étais administratrice d'un ensemble de musique ancienne juste avant. Et avant ça, j'ai aussi travaillé à l'Opéra de Rouen, l'Opéra de Paris, et un ensemble aussi qui s'appelle Ostinato, un orchestre. Et on faisait avec toutes ces structures, il y a beaucoup d'initiations. d'action, d'initiatives auprès d'un public plus jeune, justement, pour découvrir la musique, les musiciens, les instruments. Donc beaucoup d'ateliers pédagogiques pour chacun. Et sur ma dernière expérience, j'ai eu cette rencontre avec un jeune homme qui était ravi de découvrir le clavecin, les clavecinistes. Et il connaissait pas du tout. Et il vient me voir à la fin d'un stage et il me dit « Mais Clotilde, je fais comment maintenant pour continuer à jouer avec les musiciens ?» Donc là, bon, bah, tout est dit, quoi. Enfin, je voulais lui trouver une solution pour que chez lui, il puisse faire quelque chose. Je lui ai tendu un CD, il m'a regardé, il a dit, mais qu'est-ce que tu me sors? Qu'est-ce que c'est? Où je mets ça?
Donc là, je me suis dit, j'ai plus de lecteur CD chez
moi. Lui, il en avait même jamais vu de sa vie, en fait. Donc, et simplement, en 2013, en musique classique, on pressait beaucoup encore de CD et l'accessibilité de la musique classique sur les plateformes est un peu complexe. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver quelque chose pour rapprocher justement ces musiciens d'un public un peu inné, puisque finalement la musique classique est le seul répertoire à être étudié vraiment sur tous les continents. Et la phrase qui marche, c'est ben, Mozart est beaucoup plus connu que Madonna, et beaucoup plus joué également.
Ouais.
Donc voilà, donc je me suis dit qu'il fallait quelque chose d'interactif. Et étant en 2013-2014, ayant vu bah, tout l'univers des jeux vidéo par exemple, je me suis dit bon, il y a forcément quelque chose à faire. Et il se trouve que, alors dans toutes les bonnes idées, ce qui est un peu compliqué, c'est la techno peut-être à développer, et c'est surtout l'usage. Parce que quand l'usage n'existe pas, c'est habituer des personnes à faire quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Simplement, en me penchant sur le sujet, j'ai découvert qu'il y avait d'autres offres qui avaient existé et qui existent encore, justement de systèmes de karaoké. Pour les musiciens classiques, il y a une méthode qui a été créée dans les années 80 qui s'appelle Music Minus One, qui est en fait une partition à acheter chez le libraire, ouais, avec un CD.
D'accord.
Donc voilà, tout est dit. Simplement, c'était des enregistrements spécifiques. On ne connaissait pas forcément les artistes derrière. Alors que derrière Nomad Play, on a vraiment un rapprochement entre l'interprète et le musicien amateur chez lui, ouais, ou l'élève. Mmh. L'idée, c'est vraiment de connecter aussi le monde du spectacle vivant et le monde du digital. C'est-à-dire que moi, ce que j'espère, c'est que en me disant tiens, je vais apprendre le violon, je vais jouer à la place de Renaud Capuçon dans mon salon, bah je vais peut-être me dire tiens, je vais aller le voir en concert, ça va être super. C'est vraiment essayer de rapprocher les gens et de créer des communautés comme ça.
Et remettre de l'humain aussi avec des figures emblématiques de la musique.
Complètement, c'est de remettre de l'humain et remettre l'interprète aussi au cœur du sujet. Parce que potentiellement, on peut avoir 4 versions de la 9e de Beethoven dans Nomad Play parce qu'on aura une version allemande, une version anglaise, une version française. L'idée n'est pas du tout de se resserrer sur une seule version et d'avoir un outil, vous avez une version de chaque œuvre interprétée par des fois des inconnus. C'est pas le sujet, c'est vraiment de se dire tiens, il y a des vrais interprètes derrière, il y a un discours. Et moi-même, peut-être, j'aurai mon discours maintenant chez moi dans mon salon ou même plus tard si je deviens un professionnel ou un grand amateur d'ailleurs.
Tu as dit, derrière Nomad Play, il y a une techno,
oui.
Donc c'est un algorithme que vous avez développé. Qui travaille sur cet algorithme
Alors, en fait, oui, la nécessité d'avoir un algorithme, c'est quand derrière cette Nomad Play, il y a une réflexion qui est un peu plus vaste, qui est de se dire qu'avec Nomad Play, on a un nouveau modèle économique à la musique enregistrée. C'est-à-dire que depuis à peu près 120 ans, nous écoutons la musique. La radio, le vinyle, la cassette, le MP3, tout ce que vous voulez, même le streaming. Finalement, on a une expérience qui est unique, qui est d'écouter. Donc avec Nomad Play, les albums de musique enregistrée peuvent être joués. Donc derrière, une fois qu'on a dit ça, soit on demande au label de nous livrer des multipistes super clean, ou alors, donc en fait, ça équivaut à leur demander d'enregistrer en studio séparé un orchestre. Donc ouais. Imaginez 30 à 80 musiciens en studio séparé. D'un point de vue sonore, c'est impossible, en fait. Mmh. Et ensuite, d'un point de vue budgétaire, c'est aussi impossible. Donc je pouvais pas faire ça. Donc l'idée de la techno c'est de leur demander de livrer les bandes studio et que nous puissions les séparer avec un algorithme. Donc ce qui a été fait, c'est qu'nous avons recruté des chercheurs au sein de notre entreprise, donc on est vraiment une entreprise tech, musique et tech française, et du coup on a des chercheurs, on a une équipe de chercheurs qui développe l'algo, qui est beaucoup plus puissant qu'il y a 6 mois, mais moins puissant que dans 6 mois.
Et il y a d'autres startups comme ça qui sont musique et tech.
Musique et tech, oui, bien sûr. Il y a pas mal de... Alors, il y a des entreprises de l'ombre. Il y en a pas mal à Lille, notamment, qui développent davantage des solutions pour traiter les métadonnées.
D'accord.
Donc ça, c'est des entreprises, c'est moins glamour à raconter peut-être, mais en tout cas, c'est des entreprises très, enfin, qui ont des technos très puissantes et qui ont des clients assez importants, hein, vraiment.
Sur Nomadplay, ton business model aujourd'hui ?
Alors, le modèle économique est basé sur deux potentiels clients, donc je vais parler en start-up, en B2B. Donc, nos clients principaux, ce sont les écoles de musique, conservatoires, comme je disais tout à l'heure, et en B2C, donc Apple Store, Google Store et autres sites internet, forcément.
Avec un abonnement ?
Avec un abonnement. Alors, on a un abonnement qui arrive en ce moment d'un an.
Ouais.
Et on a sinon la bonne version traditionnelle de sans engagement au mois à 9,99. Et ensuite, pour tout établissement pédagogique, il faut nous contacter et on envoie des devis appropriés et adaptés.
Et j'imagine que le confinement a eu son effet, non, sur Nomadplay.
Alors, le confinement, c'est la question. Alors, en fait, on pourrait se dire qu'effectivement, on est tout seul à la maison, donc du coup, Nomadplay a été utilisé. On pourrait se dire, et on peut se le dire, Nomadplay a été utilisé. Donc, en fait, l'histoire de Nomadplay, c'est quand même aussi une mise en ligne en version payante en janvier 2020.
Ah!
Oui, voilà, c'est ça le point un peu. Donc en fait, on n'est pas connu en janvier 2020, hormis dans la sphère...
Dans l'écosystème.
Oui, l'écosystème, mais qui n'est pas nos clients, en fait.
Ouais.
Et donc, on met en vente en 2020. On n'en parle pas trop, histoire de faire des tests quand même. Et on avait un peu le temps, on était contents.
Pour être sûr que l'app ne bug pas.
C'est ça, exactement. Donc, on était un peu contents de se dire, tiens, on a 4 mois d'avance parce qu'on devait en parler lors du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui est un de nos partenaires importants. Donc, on était heureux, on avait 4 mois d'avance, c'était incroyable. Et puis, mars confiné, dès le 16 mars, j'appelle mes investisseurs et je leur dis, écoutez, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, ça va être assez dur et je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on mette tout en gratuit. Bon, bah ils disent oui, on met tout en gratuit et là, ça explose dans tous les sens au niveau des connexions. Pas l'application, heureusement. On a quelques bugs, mais les utilisateurs nous les remontent très rapidement. Donc ça, c'était vraiment super. Parce
de manière plutôt bienveillante.
Ah oui, complètement. Donc d'une hyper tolérance. Enfin, vraiment, c'était ça a sauté. Enfin, je comprends pas, ça marche pas.
Donc t'as eu des user tests.
Incroyable, ouais. Donc on a eu en moins d'un mois et demi, on a eu 20 000 utilisateurs, okay. Du coup, gratuits en France. Et puis on avait envoyé deux codes spécifiques de gratuité, ça c'est parti, c'est bien parti. On a des artistes connus qui ne sont pas dans l'appli qui ont commencé à jouer sur leurs réseaux sociaux en disant c'est génial cette appli, merci beaucoup, ça me met du baume au cœur, donc c'était super quoi. Et puis ensuite, il a fallu transformer l'essai en payant. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire. Et en parallèle, on a lancé notre commercialisation sur l'établissement. Simplement, quand on est confiné en mars, avril, mai à peu près, puis en novembre une nouvelle fois, ouais. Il faut penser que les directeurs et directrices d'établissement étaient eux aussi confinés et fermés. Donc en fait, c'était une période qui a été très dure parce que en fait, nos clients potentiels n'étaient pas présents.
Oui.
Certains répondaient, mais certains aussi étaient aussi overbookés par justement toute la sécurité à aborder dans leur établissement. Donc en fait, ça n'a pas été si facile que ça.
Ça a été plutôt une période de notoriété pour la marque.
Oui, c'est ça, notoriété pour la marque. Et puis ensuite, il y a aussi un rejet du digital après Covid, où les établissements en général, et les professeurs et élèves d'ailleurs, étaient fatigués des écrans, ce que je peux comprendre aussi. Et donc, il faut revenir à un juste milieu, quoi. Où en fait, Nomadplay n'est pas du tout une appli qui a été montée pendant le confinement. C'est pas une appli Covid du tout. Enfin, le projet est réfléchi depuis 2015 quand même. Mmh. Et puis, ça se monte pas en deux, ce genre de projet. Il y a aussi les éditeurs derrière, quoi, les ayants droit et toutes ces choses-là, les contrats à monter, forcément. Et de fait, le projet, heureusement qu'il était prêt avant, mais là, maintenant, il reste une évangélisation par rapport au digital dans les établissements qui est assez important.
Tu as parlé tout à l'heure de l'Allemagne, je crois.
Orchule, effectivement.
Voilà, je voulais pas répéter le mot allemand parce que je l'avais pas bien en bouche. Il y a d'autres pays qui utilisent Nomadplay.
Alors, qui utilisent, il y a aux États-Unis, on a une quinzaine d'universités qui utilisent Nomadplay actuellement.
Est-ce que c'est plus facile de leur vendre là-bas ?
Absolument. Oui, effectivement. En fait, la France, c'est assez complexe à plusieurs niveaux quand on est une start-up. Et les États-Unis ont une réaction qui est plus... comment ? Enfin, il y a moins de... Enfin, il y a plus de réactivité. C'est-à-dire qu'en fait, c'était assez marrant parce que les premières fois où je suis allée aux États-Unis, je présentais Nomad Play qui n'était même pas encore en ligne et on me disait « Ah, mais c'est super, je vais être le premier à l'utiliser. » En France, c'est qui l'utilise ? Ah, peut-être que s'il y en a 14 de plus, je vais peut-être l'utiliser si peut-être ça marche, parce que ça ne marche pas, votre truc.
C'est une réticence, tu crois, par rapport à la tech ?
Par rapport à la nouveauté en général.
D'accord.
La tech ou la nouveauté, en fait. C'est simplement qu'en France, il y a toujours une réticence par rapport à tout ce qui est nouveau, je pense. C'est vraiment... C'est assez flagrant.
Et du coup, c'est une belle vitrine que d'avoir ces utilisateurs aux États-Unis.
C'est une belle vitrine, oui, enfin, ça sert pas forcément parce que en France, les gens préfèrent avoir des preuves françaises en fait.
D'accord.
Je vais aller jusque là. Et il y a beaucoup d'entreprises de la tech qui, ou alors pas forcément la tech, qui sont parties d'ailleurs de la France aller développer un marché sur un autre territoire beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai plein de copains comme ça qui sont partis au Canada et pour qui ça a marché beaucoup plus vite et qui reviennent beaucoup plus tard ou pas. D'ailleurs.
Et toi, tu as cette ambition de développer à l'international ?
Oh, moi, j'ai l'ambition. Moi, la seule ambition, c'est qu'il faut que ça marche. Donc après, ça marche ici ou ailleurs, je suis persuadée du projet et ça va marcher. Après, c'est certain que la France, c'est un enjeu quand on est français, mais ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, ils se disent pas, tiens, il nous faut la France, quoi. Donc c'est une vision très franco-française de rester en France quand même. Et d'ailleurs, ça rassure tout le monde, c'est-à-dire que les banquiers sont rassurés si on reste en France, les investisseurs aussi. Mais en même temps, le marché français, c'est très très compliqué.
Et sur le marché asiatique ou UK, tu y vas aussi ou...
UK, oui.
Ouais.
Asiatique, c'est complexe parce que c'est loin et en temps de Covid, non mais c'est en fait il faut se déplacer, il faut voir les gens, il faut négocier sur place, il faut prendre du temps, il faut prendre du temps de comprendre aussi ce qui se passe sur ces territoires un peu plus lointains et en fait là ça a été mis à mal, ça a été vraiment mis à mal, alors que je vous avouerai que justement sur un territoire asiatique, un karaoké de musique classique qui comprennent très rapidement, il n'y a pas de problème, ils se disent pas qu'est-ce que c'est, on va où, c'est pourquoi, c'est ah bon ça n'existe pas, mais alors ok on file tout de suite quoi.
Tout à l'heure, je te posais la question des concurrents. Donc, tu m'as parlé d'une méthode qui existait dans les années 80, mais qui était réduite au CD. aujourd'hui, est-ce qu'il y a des acteurs qui pointent le bout de leur nez sur ce que tu fais ?
Alors, sur ce que je fais spécifiquement, non. Après, il y a déjà des acteurs qui ont du son dit de musique classique qui ont les partitions aussi, mais qui on joue pas avec des vrais artistes. On joue avec des ordinateurs, on joue avec un synthétiseur qui mime le violon. On peut jouer aussi avec des vrais musiciens, mais ils sont pas crédités. Donc en fait, derrière, il faut savoir que la vision n'est pas la même. L'enjeu n'est pas le même dans l'écosystème musique, parce que là, nous, on s'insère directement sur l'écosystème musique enregistrée et même spectacle vivant. Donc, on fait du bien à tout le monde, en fait. Alors que si j'avais pris, et d'ailleurs, je me serais moins pris la tête en contrat et le modèle économique, j'aurais pas de royauté à reverser aux artistes.
C'est ce que j'allais te poser comme question, en effet.
Bah,
avec les ordinateurs, c'est vrai que tu as moins de royalties que...
Mais du coup, c'est un enjeu pour une start-up qui veut gagner de l'argent et se faire son propre modèle économique, en fait. Mais c'est pas scalable. Enfin, je veux dire, il est tout seul, il devient le premier et puis c'est plié. Mais il n'y a pas d'enjeu... Il n'y a pas d'enjeu à la Steve Jobs et aux années 90 où ils voulaient changer le monde, quoi. Là, ça ne change pas le monde du tout. On se fait du beurre et c'est tant mieux pour lui ou elle d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas l'enjeu de chez nous. Nous, on veut se faire effectivement plein d'argent, mais ça va être dispatché.
Et comment tu as convaincu les premiers musiciens à te suivre dans cette aventure ?
Ah, c'est une bonne question ça, parce que en fait, c'est évident que si on était arrivé il y a 15-20 ans en disant « Tiens, regardez les gars, on va vous enlever d'une bande », je suis pas sûre que ça passe. Mais en même temps, il y a aussi une génération qui arrive de musiciens qui est beaucoup plus ouverte justement aux nouvelles technologies, notamment à jouer sur une tablette. il y a 10 ans, on ne voyait pas trop ça. Tout le monde était toujours à la partition papier. Et plus ça va, plus on voit un pianiste qui arrive avec sa tablette, la pose sur son piano et joue. Il y a aussi des orchestres en France qui jouent sur tablette, en partie. Je peux citer l'Orchestre national de l'Île-de-France, qui d'ailleurs était le premier orchestre au courant de Nomad Play, parce qu'en fait, on les a fait participer à nos bêta-tests avec l'algorithme.
D'accord.
Donc, ça a été vraiment l'orchestre test où on a pris du son des répétitions et on a vu ce qui passait, ce qui passait pas. Et on voulait avoir une implantation de micro super simple pour justement gêner personne.
Ils étaient curieux, ils vous ont posé des questions.
Ouais, complètement curieux, heureusement. Bah oui, forcément, parce que dès qu'on met des micros sur un plateau, forcément, ils nous demandent qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Donc déjà, c'était dit que c'était pas pour commercialiser, mais c'était vraiment du test. Et puis en fait, ils ont tout de suite compris. Après, on a eu la chance parce que l'Orchestre National de France, qui est dirigé par Fabienne Voisin, est un orchestre qui est vraiment ouvert justement au test. Et du coup, les musiciens de l'orchestre ont l'habitude de justement d'échanger avec des entreprises extérieures et de voir ce qui peut, enfin de voir à trouver de nouveaux modèles justement pour s'ouvrir à un public plus large. Donc on avait l'orchestre idéal pour travailler en fait. Donc à partir du moment où on a déjà un orchestre français qui est plutôt partant, on est allé voir les autres et finalement tout le monde s'est dit mais c'est super parce qu'on va pouvoir enfin comment accéder aux jeunes apprenants et potentiellement à un public international aussi. Parce que peut-être que un jeune japonais va jouer sur la version du Boléro de Ravel de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et qu'il est déjà en train de le faire en ce moment à Tokyo. Ça, c'est assez magique de le penser quand même.
Oui. Et aujourd'hui, vous avez certains artistes qui viennent frapper à votre porte en disant « j'aimerais bien, moi, enregistrer pour vous ».
Oui, oui. Alors en fait, il faut savoir que l'entreprise a débuté avec un label qui s'appelle Nomad Music, qui ouais. existe toujours encore d'ailleurs, et qui a été le projet moteur et phare de toute l'entreprise, parce que l'idée de trouver un nouveau modèle économique pour la musique enregistrée, c'était de se dire bah, qu'est-ce que je suis label et qu'est-ce que je fais de mes enregistrements. Voilà, donc c'était une des réponses, c'est de créer Nomad Play. Donc on a des artistes qui viennent pour la production Nomad Music, donc qui est un label qui est là pour mettre en avant les productions d'artistes de musique classique. Et ensuite, pour côté Nomad Play, il y a des artistes qui veulent vraiment venir produire, ou c'est nous qui les produisons, des enregistrements pour les enfants, parce que beaucoup d'enregistrements n'existent pas dans le commerce, pour tout ce qui est débutant par exemple. Et eux, ça les intéresse parce que souvent ce sont aussi des professeurs. Et ils trouvent ça génial. Enfin, cet outil absolument complet et interactif, ça les intéresse, oui.
Tout à l'heure, tu nous parlais de Renaud Capuçon, qui est aussi, je crois, un de tes associés.
Alors, effectivement. Alors, Renaud Capuçon, je l'ai rencontré lors de... J'ai eu l'occasion de le rencontrer parce que je voulais lui présenter l'application. En fait, l'organisation du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Donc, on est partenaire, on anime notamment un atelier où on montre comment on utilise Nomad Play. Me dit ce qui serait génial, Clotilde, c'est que Renaud puisse présenter l'application. Alors je dis, mais bien sûr, ce serait super, ce serait magnifique. Par contre, je ne suis pas sûre qu'il sache vraiment ce que c'est. Donc j'aimerais bien le rencontrer avant. Il me dit, ah, écoute, il est overbooké, est-ce que tu es disponible à 7h15 du matin? C'était bon.
Avec un café.
Ouais, c'était un peu ça. Non, un thé.
Un thé.
Et attention. Et donc j'arrive à 7h15 dans le hall d'un hôtel à Aix et je vois Renaud Capuçon frais et pimpant. Alors que moi, bref, il est assez admirable hein, parce qu'il est toujours par bons et par veaux et il est toujours très en forme. Donc je rencontre ce monsieur qui, grand sourire, me dit « Ah, mais ça a l'air génial ton truc !» Ah bon, ok, super. Alors je pitch, en plus de un peu plus de 30 secondes, et il me dit « Mais c'est super, parce qu'en fait, ah mais quand j'étais petit, j'aurais aimé avoir ça, parce qu'en fait, j'aurais utilisé comme ça, puis maintenant, ce serait utile quand même, hein, parce que là, j'enchaîne les concertos quand même, donc pour répéter, les avoir dans l'oreille, et ah, puis je suis prof, tu sais, alors du coup, je pourrais aussi... » Et là, il me file le pitch. Tout seul, il me donne tous les avantages de Nomad Play. Je le regarde, je me suis dit, bon, ok, super, on est fait pour travailler ensemble. Ou... Donc je lui dis pas ça, mais je rentre chez moi, je réfléchis, j'appelle Anne-Laure, mon associé. Et je lui dis, écoute, j'ai rencontré Renaud, c'est incroyable, il a tout de suite compris et je sais pas, il se passe un truc. Et il m'avait donné très sympathiquement son numéro de téléphone. Donc à ce stade-là, autant vous dire qu'il avait accepté de faire la démonstration. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, est-ce que je peux te voir? J'ai une proposition à te faire. Et voilà, ça s'est passé comme ça. C'était un peu du culot, mais en même temps, bon,
mais
si on n'en a pas un minimum, on fait rien. Et en fait, il a été très sympathique encore une fois parce qu'il m'a dit mais quel honneur. Donc mais quel honneur cette demande, c'est je suis honorée que tu me demandes ça, j'imagine que enfin voilà, c'est ton entreprise, enfin celle d'Anne-Laure et toi et voilà, donc c'est précieux, donc faire une telle demande à quelqu'un, je prends la mesure de la chose, écoute, je réfléchis, et il est revenu deux jours après en me disant bah écoute, ouais ça m'intéresse parce que le projet je le trouve d'envergure, je le trouve intéressant, ça croise la pédagogie, la pratique et l'excellence aussi parce qu'on a des super musiciens, super interprétations et du coup ça croisait beaucoup toutes ces réflexions en fait. Donc voilà, donc depuis 2019 on est associés et c'est quelqu'un de très accessible que je joins très facilement qui ne m'oblige pas à faire des choix mais qui me conseille, donc c'est vraiment super.
Et puis c'est un bel porte-étendard de la marque.
Ah mais bien sûr. Ah ben ça je ne dirais pas le contraire. Évidemment, c'est un bel étendard de la marque et c'est certain que ça vous apporte très bien. Et ses conseils aussi. J'insiste là-dessus quand même. Hein. C'est quelqu'un qui donne de très bons conseils
et qui s'investit.
Et qui à l'écoute. Oui, il faut. Ouais. Il est vraiment présent quoi.
Tu nous parlais de ton autre associé.
Anne-Laure Guittet.
Exactement. Vous vous êtes rencontrés comment ?
Alors, on s'est rencontrés au travail. C'est-à-dire que quand j'étais administratrice, de cet ensemble de musique ancienne, elle était l'ingénieur du son qui enregistrait les albums de cet ensemble. Et ayant le même âge, ça va vite. On prend un café, on parle, et puis elle commence à me parler des difficultés des ingénieurs du son et des directeurs et directrices artistiques des enregistrements pour enregistrer, parce qu'en fait plus le modèle économique est mauvais pour la musique enregistrée, plus on demande à ces personnes d'enregistrer sur moins de jours. Donc, faut toujours que ce soit aussi qualitatif, mais là où on avait 6 jours, on n'en a plus que 3. Donc, ça commençait vraiment à l'inquiéter. Et elle se penchait justement sur le digital, voir ce qui existait en site internet, en plateforme, en application. Et on a commencé à réfléchir sur ces sujets-là, en se plaignant du modèle actuel. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, faut arrêter de se plaindre, faut agir, parce qu'on voulait pas devenir ces personnes aigries qui, à la retraite, auraient dit, oui, moi aussi, j'ai eu cette idée, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, on s'est lancé.
Vous avez foncé. Tu disais tout à l'heure, donc vous avez développé un algorithme un algorithme qu'on ne crée pas du jour au lendemain, comme tu le disais tout à l'heure.
C'est sûr.
Ça demande des financements. Comment vous avez fait au début pour vous financer ?
Alors, au début, pour se financer, on ne s'est pas financé. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas payé, Anne-Laure et moi. Donc ça a été une période de vache maigre qui a duré quand même assez longtemps. Mais il faut vraiment en être conscient. Enfin, sur le moment, on n'en parle pas trop, ni à nos familles, ni à nos amis, pour inquiéter un peu personne. Mais moi, j'ai quand même une période très dure financièrement. Le premier enjeu, c'était de pouvoir salarier quelqu'un. Parce que autant, nous, on pouvait croire en notre projet, faire des concessions, c'est une chose, mais à partir du moment où on a des stagiaires et un ou une salariée, faut les payer, quoi, ce qui est complètement normal. Et du coup, on a vendu, nos prestations et notre cerveau en marque blanche. Donc ça a été un premier enjeu sur nos compétences, en fait.
Okay.
Donc on a vécu sur de la marque blanche pendant assez longtemps, donc peut-être pendant 4 ans. Et ensuite, ce qui a permis de nous tenir assez longtemps quand même, et de pouvoir ralentir le phénomène, de ralentir l'échéance levée de fonds en fait, et ouais, de pouvoir avancer en techno, avancer en contrat de licence d'exploitation d'œuvres, et d'avancer en général même sur la structuration de l'entreprise. Donc on a fait ça, on a vendu de la musique enregistrée. Après, comme j'ai pu vous le dire, la musique enregistrée, ça, on s'est pas non plus fait un chiffre d'affaires de folie en vendant de la musique classique. Donc ça suffisait pas du tout. Et en fait, ensuite, il y a aussi un point important, c'est qu'en France, il y a des crédits d'impôt, recherche et innovation pour les entreprises tech qui développent justement une innovation technologique. Donc nous, on en a bénéficié quand même assez tôt, ce qui nous a permis de recruter des chercheurs. Et ça, faut vraiment dire que le système français est absolument incroyable parce que c'est un des seuls systèmes qui est aussi bien aidé, subventionné pour la recherche. Donc c'est un peu l'ambiguïté du système où on est très aidé, entre guillemets, sur la recherche, le développement de technologies. Et ensuite, après, c'est pour la commercialisation que tout devient plus compliqué et où on voit des entreprises se développer en France et partir ou se faire racheter par l'étranger, en fait.
On se posait une question aussi parce que dans le monde de l'art, dans le monde de la musique, il peut y avoir des subventions du ministère de la Culture. Vous êtes presque un service d'intérêt public. Est-ce que vous bénéficiez de ces subventions ?
Est-ce que tu suggères qu'on devrait être nationalisé ?
Pas du tout. Absolument pas.
Service public, est-ce que tu suggères qu'on soit gratuit ?
Non plus.
D'accord, merci. Parce que ça, c'est sous... Je vais pas dévier vers ce que je voudrais. Donc, je vais répondre à ta question. Est-ce que nous sommes aidés par le ministère ?
Est-ce que vous avez des subventions publiques ?
Voilà. Absolument. En fait, on a eu aussi, je pense que j'ai dû faire une... Je dirais, mais la moitié des incubateurs de Paris-Paris-Banlieue.
Comme tout le monde te connaît.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un super système justement pour déjà accueillir, ne serait-ce qu'à partir du moment où on a commencé avec un stagiaire.
Ouais.
On peut pas le recevoir n'importe où non plus. Enfin, il faut que ce soit correct, il faut que ce soit aux normes. Donc en fait, on est passé par pas mal d'incubateurs. Le dernier, c'était Paris & Co-Link. Donc, c'était vraiment super. Et on est aussi passé par l'incubateur d'audience. Enfin, c'était... Oui. Donc, on en a fait pas mal. Donc, ça nous aide financièrement puisqu'on ne loue pas. Enfin, je me suis toujours débrouillée pour ne pas avoir de loyer, sauf sur quelques-uns, mais ou alors c'était très peu cher. Ou alors, il y avait des subventions BPI, notamment pour payer les loyers. Donc, c'était plutôt un très, très bon système pour débuter. Ensuite, on a gagné le Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris. Il y avait eu 12 000 euros à la clé. Donc c'est quand même pas mal. Après, il y a pas mal de prix où il n'y a pas d'euros derrière, mais il y a de la notoriété, donc c'est bien aussi.
Je crois qu'il y a eu le prix Madame Figaro.
Le prix Madame Figaro. Alors, ça, c'était super. C'était l'année dernière, c'était en 2020. Ça, c'était au niveau crédibilité business, c'était assez important. Ça, c'était vraiment très bien. Mais chaque prix a un enjeu. Ensuite, côté subvention, là, on a eu des aides BPI et on a des aides du CNM, donc du Centre National de la Musique, qui a été monté juste avant Covid, en janvier 2020. Je fais partie du comité professionnel, donc je fais partie des professionnels qui participent à l'élaboration des subventions, des critères. Je ne vote pas en direct, mais je fais partie des tables je suis autour de la table pour les conversations. Et je bénéficie de subventions, notamment pour la musique enregistrée. Et il y a aussi une subvention sur les créations d'innovations au sein du CNM. Donc je préconise fortement de se renseigner si vous êtes musique et tech, parce que le financement va jusqu'à 100 000 euros, ce qui est déjà pas mal.
Ouais. Merci pour cette réponse.
Il faut y aller. Ah oui, je peut-être un peu longue, les subventions en France, faut vraiment s'y intéresser parce qu'il y en a quand même pas mal, et il faut surtout remercier toutes les institutions qui permettent de procurer ces financements.
Je te propose d'écouter la question qu'avait Louis-Alexis pour toi.
Vous avez un message.
La France recèle d'entrepreneurs et d'entrepreneuses géniaux. Ce qu'elle fait, je pense que c'est unique au monde. Donc ça mérite que ceux qui le peuvent investissent. Ça s'appelle Nomad Play, Clotilde Chalot. Elle est soutenue déjà par pas mal de gens brillants. Mais la question, c'est combien elle a besoin, je ne sais pas. Donc je lui pose la question.
Ah, merci Alexis pour cette question. Alors, je précise que nous avons fait une première levée de fonds à 4,2 millions. En 2019, avec la Caisse des dépôts et des consignations, le Crédit Mutuel Innovation et Renaud Capuçon. Donc les trois sont entrés au capital. Actuellement, nous sommes sur une recherche de fonds et je peux vous laisser mon mail.
Tu ne veux pas nous dire combien ?
Non, je ne veux pas vous dire combien, mais si on va sur la recherche d'investisseurs, je peux vous dire que c'est difficile pour tout le monde et aussi pour nous.
On en parlait un peu off micro tout à l'heure sur la recherche de fonds quand on est une femme.
Alors oui, alors ça c'est, je pense que si on pouvait faire, on prend ça par la blague ou on prend ça par le côté pas drôle de la chose, mais en tous les cas c'est beaucoup plus complexe, c'est évident. Après, la chance que j'ai et je peux en parler, c'est qu'on a des chiffres. Sista a sorti une étude qui est assez probante et malheureusement réelle. Donc voilà, je fais partie de ce mini groupe de femmes qui a pu faire une première levée de fonds. et prouver que la deuxième est très complexe et le chiffre se réduit et que la troisième n'existe pas du tout. Donc comme ça, c'est plié. Je pense que je vais réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est plus compliqué parce que déjà, faut avoir le rendez-vous et une fois qu'on a un rendez-vous, l'écoute est pas forcément là chez tout le monde, quoi. C'est évident que si je me déplace avec un homme, ça ira plus vite.
C'est pas la première fois qu'on nous dit ça. On est à l'aube de l'élection présidentielle et pour l'instant, on ne peut pas dire que la petite musique qu'on entend tous les jours sur les médias est très agréable à écouter. Quelle serait, toi, la mesure phare que tu prendrais si tu te destinais à cette fonction ?
De la présidence ?
Ah ouais.
Par rapport à ton sujet. Je ne me suis pas mis en contexte là. La mesure phare, alors ça... par rapport à mon sujet, par rapport à la musique tech, les femmes dans les entreprises ou les entreprises françaises en général, ça c'est dur. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a un énorme sujet sur justement les investisseurs, les entreprises françaises aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas que ça, c'est que en fait, les entreprises françaises ne regardent pas forcément les startups et les innovations avec assez de sérieux et du coup je déplore beaucoup qu'il y en ait qui partent à l'étranger et peut-être que ce sera la suite de Nomad Play, mais en tous les cas je trouve ça un peu triste de justement former des gens dans le système scolaire, de les diplômer, de nous subventionner pour qu'on puisse développer de la R&D et qu'en fait finalement nos grands frères et nos grandes sœurs entreprises qui pourraient bénéficier de nos technos ne nous regardent pas du tout. Et avec un côté un peu hautain et lent des fois aussi, parce qu'il y a une temporalité qui n'est pas la même chez les grandes entreprises que chez nous. Enfin, chez nous, on nous demande de faire du résultat tout de suite, très vite, avec très peu de moyens. Et de fait, en face, nos partenaires potentiels ont beaucoup plus le temps. Et donc, du coup, il y a un décalage vraiment entre les startups et les grands groupes, en France en tout cas, je dirais. Ce qui est moins le cas à l'étranger. C'est beaucoup plus rapide à chaque fois. Donc oui, ce serait vraiment de faire un rapprochement en grande entreprise start-up beaucoup plus clair et beaucoup plus qui soit beaucoup plus à l'écoute et moins un sujet de plan de com où on nous met dans un incubateur, on vous dit « Tenez, vous avez des locaux gratuits, c'est déjà pas mal.
» Et des baby-foot à disposition.
Et des baby-foot, c'est vrai que c'est important.
Tu venais du monde artistique et musical. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné, justement, en rentrant de cet univers start-up incubateur et tous ces mots bizarres ?
Alors, ce qui m'a étonné, c'est les deux mondes qui ne se touchaient pas. C'est étonné et plutôt attristé, en fait. Parce que, en fait, je pourrais dire qu'on a un train avec deux rails où on a la tech et la musique et qu'en fait, finalement, quand on a débuté, les deux ne se discutaient pas. Ça veut dire que je pouvais dire au milieu tech, au milieu entrepreneurial, tiens, regardez, on est en train de développer un algorithme, ça va être génial sur la musique. Le milieu musical n'était pas au courant. Et ça m'a attristé parce qu'en fait, ça rejoint un peu ce que je disais sur les grandes entreprises et les startups tech. C'est qu'en fait, le point qui est assez grave, c'est que potentiellement, une startup tech peut développer quelque chose pour la musique sans que la musique soit au courant. Mmh. Et là, on a un sujet. On a le sujet de base des années 90, piratage. Tenez, vous n'êtes pas content, on fait notre truc tout seul et on ne vous demande pas notre avis. Et là, on a un problème parce que du coup, on arrive vraiment à... on peut détruire un modèle économique comme ça, tout un pan économique, quoi. Donc c'est ça qui m'a plutôt attristé. Et l'idée, c'est de rapprocher tout le monde pour que chacun puisse bénéficier des compétences de l'autre. Parce que j'ai quand même rencontré des entreprises musique et tech qui ne savaient pas qu'il fallait payer des artistes quand même.
Ah oui.
Voilà. Donc on part de loin. Mmh. Où on n'a que de la tech et pas d'artistique. C'est un peu le sujet. Donc beaucoup d'entreprises mériteraient vraiment de croiser la musique pour que tous ces gens-là partent ensemble. Parce que ça ne part pas d'un mauvais sentiment, c'est de la méconnaissance d'un système et d'un milieu.
Oui, parce que c'est le croisement de deux univers, en fait, finalement.
Et puis c'est surtout que une start-up, c'est peut-être bien, mais je veux dire, si on dit à quelqu'un, tiens, je vais aller chercher ton contenu et je vais le donner gratuitement ou je vais le vendre à prix bas, c'est comme si on rentrait dans une boulangerie qu'on servait, quoi. C'est pas possible sans payer. Donc pour que tout le monde soit content sur le long terme, il faut parler avec tout le monde.
Je ne sais pas s'il existe l'équivalent classique de toute première fois.
Je te l'enverrai, je vais trouver un truc.
Il y a toujours des premières fois dans la vie d'un ou d'une entrepreneur. La première fois que tu t'es retrouvée face à des investisseurs, tu peux nous raconter ?
Ça a été assez humiliant parce qu'en fait, alors, différents niveaux. Malheureusement, je suis une femme, donc déjà pour apporter la crédibilité, c'est assez dur parce que là, les premières remarques sont pas forcément sur mon modèle économique. Et ensuite, c'est la musique. Alors là, dès qu'on a un sujet musique, les gens tournent les talons et disent ah oui bon sympa, on ira à votre concert. Je dis oui, mais je ne joue pas. C'est-à-dire que c'est pas le sujet. Donc en fait, le sujet musique, les investisseurs se disent pas tiens. Ça va être intéressant pour une raison ou pour une autre.
Peut changer dans mon portefeuille.
Ouais, c'est assez compliqué à vendre un projet musique, entreprise musique. En plus, on a des modèles qui existent et qui, comme les grands groupes de streaming, qui ont justement un modèle qui n'est pas encore vraiment démontré. Donc on arrive en disant je suis une femme, je suis sur la musique classique en plus. Alors on me dit ah oui c'est pour la niche, non c'est pas pour nous, enfin bon, bref c'est pas le sujet bankable quoi, qui est, enfin en tout cas les gens se disent ça comme ça, et il faut prendre un peu plus de temps et m'écouter un peu avec mes arguments absolument incroyables pour savoir qu'effectivement il y a quelque chose à faire qui est vraiment qui est intéressant en tout cas.
Et quand tu dis humiliant et que c'est pas les bonnes questions, t'as des exemples?
Bah c'est pas les bonnes questions, humiliant c'est quand on parle davantage de mon physique que du projet. Bah ça c'est assez fatal, mais donc ça dure pas longtemps parce que là c'est plié. Je veux dire, j'avais certes besoin de financement, mais il y a des limites. Donc ça a arrivé une fois, ouais, c'était assez bizarre. Et puis surtout c'est improbable, c'est-à-dire qu'on se dit bon, on est en milieu business avec des gens intelligents, on est là à la limite pour se faire de l'argent quoi, point barre. Mais alors là c'était assez fou. Puis ensuite les questions, en fait ce qui est compliqué c'est quand on a quelqu'un qui est censé, les gens se positionnent comme s'ils devaient tout savoir, donc c'est alors que moi je leur demande pas tout savoir. Enfin comment on peut être investisseur et connaître aussi bien l'agroalimentaire, le médical et la musique? Moi j'ai jamais demandé à quelqu'un de faire semblant de tout savoir. A priori c'est moi la spécialiste de mon domaine et c'est moi qui peux lui expliquer, et à partir du moment il n'y a pas de problème. Simplement les gens se positionnent comme s'ils avaient un savoir absolument incroyable, et du coup ils ont tendance à se mettre dedans dans une grosse boulette, et du coup se sentent en danger alors qu'en fait non, pas du tout. Enfin ils me posent des questions, je leur réponds, et c'est pas à eux de savoir pour moi. Et il y a toujours un positionnement de certains investisseurs qui se disent un peu supérieurs et ils se trompent parce que du coup ils se mettent un peu dans leur propre problème.
Ton premier coup de culot?
Mon coup de culot. Alors, mon coup de culot, le premier coup de culot, on a sorti une vidéo. En fait, quand on a sorti Nomad Music, notre label, on a fait une vidéo. Donc, on n'était pas connus. On a sorti un album avec Jean-Jacques Kantorov et Alexandre Kantorov. Alexandre Kantorov qui a gagné la Victoire de la musique au piano l'année dernière. Et qui en 2014 devait avoir 16 ans, donc on était
précurseur.
On a sorti son premier album. Donc en fait, on avait un enjeu qui était quand même assez important parce que son père, qui est Jean-Jacques, est très connu. Et on avait du coup, c'était assez marrant. On avait un peu la passation entre le père et le fils, et nous, c'était le début, premier album du label. Et on a sorti une vidéo en parallèle pour nous faire un peu connaître et un peu pour annoncer un peu la couleur du projet. Et en gros, on a fait une vidéo. C'était un jeune homme qui va chez une copine, qui sort son CD de la table et qui dit, la copine dit, mais je vais aller chercher chez les boutiques Harmonia Mundi. Et là, il dit, mais non, c'est fermé. Ah bon, bah, je vais aller chez Virgin. Ah mais non, c'est fermé. Ah bon, bon. Et puis bon, il finit par dire, mais tu mets pas le CD? Il fait, bah non, mais j'ai pas de lecteur CD. Donc en fait, on a sorti cette vidéo qui disait, mais le CD, c'est plus possible parce que finalement, plus personne peut ni en acheter, ni acheter lecteur. Donc, il faut passer à autre chose maintenant. Et en fait, on citait les marques. Donc ça, c'est un coup de culot. Parce que c'est un peu qui tout double. Hein. C'était un peu qui tout double. Mais finalement, il y a eu un côté un peu sympathique de la vidéo que tout le monde a compris et personne nous en a voulu. Mais on était quand même un peu culotté de sortir ça quand même à cette époque.
Et ta première désillusion?
Ma première désillusion... c'est quand j'ai compris que, il y a un niveau de responsabilité quand on est chef d'entreprise qui est assez important et qu'en fait, il faut toujours très très bien s'entourer, mais il y a toujours un moment de solitude qui reste un peu vertigineux. On est quand même un peu De toute façon, c'est nous le responsable. Donc quand ça va bien, c'est tout pour l'équipe, mais s'il y a une mauvaise décision, c'est pour moi. Et ça, c'est assez vertigineux, parce qu'il y a toujours un côté un peu « Ah, flûte, alors je suis… » Ah ouais, non, c'est un peu rude, quoi.
Et on n'est pas toujours préparé.
Ben, on nous le dit pas, parce que quand ça marche, quand c'est super, tout le monde est OK, mais c'est certain qu'il y a un poids qui est là, qui est présent. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Et en fait, je pense qu'il faut avoir les compétences, il faut avoir du recul, il faut surtout avoir beaucoup d'autodérision. mais après, faut être calme, avoir bon caractère, être posé. Et comme dirait mon entraîneur de sport, quand j'avais 15 ans, j'ai fait beaucoup d'athlétisme. En fait, le 100 mètres à moins de 10 secondes, mais il y a plein de personnes qui peuvent le courir. Après, c'est qui a le mental pour le faire le bon moment, en fait. Et c'est un peu ça, chef d'entreprise, c'est beaucoup de mental.
Quel est le conseil qu'on t'a donné que t'as pas suivi ?
D'éviter de boire de l'alcool. Voilà. Il y a un monsieur très bien intentionné avec qui j'ai eu rendez-vous, qui était vraiment super, et qui m'a dit « Écoute, Flutti, j'espère que tu fumes pas, j'espère que tu bois pas, parce que là, ça va être vraiment très dur, c'est un marathon, ton truc. » Je dis « D'accord. » Tu peux espérer. Mais du coup, voilà, il m'arrive de boire un peu de vin.
Le meilleur conseil que t'as reçu ? Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de vin dans le studio actuellement.
Absolument, il y a de l'eau plate, c'est très bien. Et en même temps, il est très tôt. Le meilleur conseil ?
Ouais.
C'est peut-être mon entraîneur justement, hein. C'est le mental, c'est tout sur le mental. C'est vraiment, faut être calme, faut avoir du recul et faut avoir une vision aussi qui est sur du long terme. Donc c'est bien de s'entraîner à courir vite, mais il faut vraiment voir la course avant en fait.
Et tu te fais accompagner là-dessus ou c'est plus toi, ta rigueur, ton expérience passée qui te permet de mettre les jalons en fait?
Je pense pas que ce soit une rigueur, enfin peut-être, mais c'est plutôt une façon d'observer le monde en général. Donc je me fais accompagner par la moindre personne que je croise dans la rue. C'est vraiment, j'essaie d'avoir le maximum d'informations, essayer de la traiter pour voir quelle sera la bonne décision. Et ça passe aussi l'atmosphère ambiant du pays ou du monde, mais ça passe aussi par mes collaborateurs, mes collègues, par ma famille. Enfin, j'essaie d'être à l'écoute et aussi de faire attention à tout ça.
On va y revenir. Le meilleur conseil que toi, tu pourrais donner ?
Le meilleur conseil, c'est de bien s'entourer. En fait, on a trop tendance à croire qu'on peut tout faire tout seul et qu'on doit tout faire tout seul. Alors oui, en quelque sorte, puisqu'on est décisionnaire quand on est mandataire social, hein, je veux dire, quand on est président ou présidente d'une entreprise. Mais finalement, il faut savoir s'entourer, il faut savoir déléguer. Et ça peut être dur, mais il faut absolument le faire parce qu'on peut pas tout faire. Et moi, la première chose, je parlais de la première salariée, c'est quelqu'un sur l'administration, parce qu'en fait, on se retrouve vite à faire les contrats, la compta en rentrant à la maison, et il faut se décharger de ça un maximum parce que ça prend beaucoup d'énergie et de temps.
Oui.
C'est très minutieux.
Oui.
Et j'ai eu tout le temps à cœur que ça le soit, parce que je savais très bien qu'à un moment donné, si j'avais une levée de fonds ou si j'avais des banques ou un prêt, j'allais avoir des audits. Et ça, si j'ai un conseil, c'est vraiment soyez propre sur votre administratif et surtout sur vos salaires, votre RH, parce que déjà, il le faut, mais en plus, vous allez être contrôlé à un moment donné. Donc même si vous en fichez, ben, vous allez vous faire attraper à un moment donné. Pas.
Par la patrouille.
Par la patrouille, ouais. Donc entourez-vous de personnes compétentes et ça, c'est le meilleur des conseils.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Clotilde, si on devait mieux te connaître à partir d'une ou plusieurs musiques, ce serait lesquelles et pourquoi ?
Ça, c'est drôle. Alors, ce serait Dalida.
Laquelle de Dalida ?
Ce serait Laissez-moi danser.
Ouais.
Alors, Dalida, simple. Alors, je dirais presque femme entrepreneuse. Femme artiste dans les années 70-80 avec un destin absolument incroyable et triste, un répertoire que je trouve très dansant forcément comme beaucoup de gens, qui a bercé mon enfance, une partie de mon adolescence, et des messages derrière chaque chanson qui, euh, qui sont des fois aussi tristes que les textes de Barbara, mais qui sont dits avec un tempo et un rythme tellement gai qu'on c'est très trompeur, quoi.
Ouais.
Mais en tous les cas, voilà, c'est une artiste que j'admire beaucoup. Aussi, j'ai été choquée par sa mort. J'étais extrêmement jeune et j'ai compris que tout le monde était extrêmement triste. Et c'est quelque chose qui me reste. J'étais très jeune et j'ai compris que c'était triste, qu'il se passait quelque chose et que Dalida était plus là. Je sais plus. Bon, bref. En tous les cas, voilà, je veux vraiment rendre hommage à cette personne. Sinon, je suis génération Nirvana, Michael Jackson, Madonna. Donc j'ai mixé ces personnes ensemble. C'est assez drôle déjà de le dire,
ouais,
parce que ça n'a rien à voir. Mais je fais partie de ces adolescentes qui ont tout écouté à la radio. Voilà. Donc on avait la radio, donc on avait une diversité aussi quelque part, bon, qui est discutable. Mais en tous les cas, je pouvais aussi bien écouter Nirvana que Offspring ou les Two Bistri à la radio, quoi. Voilà, je l'ai dit. Ensuite, la musique classique, forcément, le jazz assez années 50, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, enfin, traditionnel, un peu ce qu'écoutait mon père finalement. Et puis, et la musique classique que j'ai croisée la première fois grâce à mon père. Voilà, qui avait vu que je me baladais tout le temps avec mon baladeur cassette, avec justement, mais je craquais la musique sur la radio, donc j'avais mes cassettes enregistrées. Où il manquait le début des pistes. C'était formidable parce que j'étais pas assez rapide.
T'appuyais pas assez vite sur le rec et le play en même temps.
Exactement, pour ceux qui me comprennent. Et en fait, mon père a vu que je me baladais avec cet engin et il s'est dit, tiens, c'est par là qu'il faut l'attraper. Donc il m'a offert une cassette de Mozart et ça a matché direct. C'est juste incroyable.
Est-ce que c'est ce qui a été signe de ta carrière et de Nomad Play aujourd'hui ?
Pas forcément. Cette réflexion de la cassette, elle était notable parce qu'en fait, il a été malin, quoi. Il a vu ce que j'avais comme device, ouais, en fait. Et puis, il s'est dit, je vais mettre le contenu que je souhaiterais partager. Et c'est ça aussi Nomad Play. C'est que moi, j'ai atterri avec ma carrière professionnelle et le CD. Je me suis dit, ça ne matche pas du tout avec un smartphone ou un iPhone. Donc, du coup, je vais essayer de mettre quelque chose qui est beaucoup plus interactif pour les gens actuellement. Donc, je ne peux même pas dire les jeunes parce que finalement... même les personnes qui sont maintenant à la retraite utilisent volontiers Nomad Play parce qu'ils ont plus le temps. Donc en fait, on a vraiment des enfants et on a des retraités. Donc, le device en lui-même ne dérange personne puisque tout le monde, maintenant, beaucoup de personnes ont un smartphone ou un ordinateur ou une télé même. Enfin bon, bref. Et donc du coup, la musique classique, ça a été aussi une rencontre parce que j'ai passé à un moment donné mon BAFA et j'étais encadrante sur des stages de musique classique avec des jeunes musiciens qui jouaient. Mais alors, ils étaient tous en short, ils jouaient sous un pommier avec un prof, c'était l'été, tout allait bien, c'était génial. Et je me suis dit, ça a l'air vraiment sympa comme milieu.
Ça désacralise aussi.
Complètement. Mais en fait, je savais pas, moi, à ce stade, qu'il y avait quelque chose de très cérémonieux autour du concert de la musique classique. Moi, j'ai découvert la musique classique comme ça, enfin l'approche de la pratique. Mm-hmm. Je me suis dit, c'est cool, super. Et voilà, ça a commencé comme ça. Je me suis inscrite à un doc d'administration... du spectacle, de droit et administration du spectacle. Et puis voilà, ça a déroulé après.
Et toi, même, tu as joué un instrument ?
Alors, oui. Ça, c'est la question piège chez moi. C'est celle-là. Ça, s'il y a une question piège, c'est celle-là. C'est oui, j'ai joué un instrument. Et par contre, je joue mais extrêmement mal. C'est-à-dire que j'ai un niveau de solfège qui est pathétique. Et je fais partie de ces gens qui n'entendent pas. Qui, quand j'entends de la musique, j'entends pas des notes. Donc en fait, la Nomad Play, ça m'aide aussi parce que j'entends la musique et ensuite je vois les notes. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ont appris à parler avant de lire. Et donc du coup, je trouve ça plus logique d'entendre avant de lire la musique. Et c'est vrai que du coup, Nomad Play, il y a quelque chose qui me ressemble parce que entendre et voir les notes, ça m'aide beaucoup.
Oui, à comprendre
ce qui est écrit,
oui,
en fait,
oui,
finalement.
Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés aussi du solfège.
Je trouve ça un peu rude en approche d'avoir simplement la partition et notre instrument parce qu'on ne sait pas la lire, on ne sait pas. Enfin, il y a un truc qui est un peu déroutant.
On ne sait pas à quoi ça correspond.
Voilà, c'est
ça. Quand on est enfant,
il y en a qui comprennent vite. Ça veut dire, moi, j'ai mon associé, c'est simplement vous faites un seul bruit de n'importe quoi où vous voulez. Enfin. Vous appuyez avec votre bracelet sur un verre ou je sais pas quoi, ça va faire une note. Enfin, ouais. Elle a des notes dans la tête. C'est exactement l'inverse de moi.
C'est bien
fascinant.
Du coup.
On est très complémentaires.
Vous êtes complémentaires.
Ça, je peux, je vous l'assure.
À quoi tu rêvais, petite ?
À quoi je rêvais ? Je rêvais de pouvoir faire tout ce que je voulais. mais c'est plutôt cool. Du coup, ça a passé aussi bien par des trucs de filles, des trucs de garçons. J'ai été élevée comme si je pouvais tout faire. J'ai grandi à la campagne et du coup ma mère m'embarquait aussi bien faire du shopping, donc ce qui était caractérique qui avait un caractère plutôt féminin parce que les garçons font moins de shopping, alors quelque part c'est pas plus mal parce que au niveau de la consommation, merci messieurs, même si maintenant il dit bon, mais en tous les cas dans les années 80-90 ma mère me prêtait plutôt des activités de filles et mon père m'embarquait couper du bois et je sais pas moi, désherber, nettoyer une rivière et il n'y avait pas de critique ni de gêne d'aucun. Donc c'était plutôt sympa et moi je me suis dit ça va être tout le temps comme ça en fait finalement. Et après en grandissant on se rend bien compte que c'est pas ça et que le monde extérieur nous dit non, il y a des trucs pour filles, il y a des trucs pour garçons. Après j'ai pas eu le droit d'avoir de Game Boy par exemple. Donc quand même, il y a eu ça, parce que je pense qu'il y a une énorme erreur marketing de Nintendo en appelant le Game Boy, Game Boy.
Oui.
Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui n'en ont pas acheté aux filles parce que c'était marqué jeu pour garçons. Et du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi moi j'insistais, quoi. Sauf que moi, je ne comprenais pas non plus Game Boy, je ne sais même pas ce que ça voulait dire.
Et toi, tu voulais juste ta Game Boy?
Je voulais un Game Boy et jouer avec mes copains. On pouvait se connecter ensemble avec le câble, là, c'était formidable. Puis voilà, tout le monde en avait, moi j'en voulais, c'était drôle, quoi.
Il y a des métiers que tu rêvais de faire petite?
Absolument. Je voulais être chef en cuisine.
Ah, bon, t'as gardé le chef.
C'est ça.
Et la cuisine est devenue une passion ou...
C'est devenu une passion. Et en fait, l'histoire m'a plutôt accablée. C'est que j'ai demandé une école. J'en ai parlé avec mes parents. Je voulais faire une école en Suisse assez connue.
Oui.
J'ai demandé ça, je ne sais plus, c'était en première. Et en fait, ils n'ont pas voulu. Et ça a été une déconvenue assez incroyable pour moi parce que je voulais vraiment.
Ils ont pas voulu parce que c'était trop loin.
C'était trop loin et parce que c'est un métier de garçon.
À nouveau.
Absolument. Et en se disant, ça va être beaucoup trop dur comme vie. On va lui éviter ça. le naturel revient à galop. Enfin, je me suis mis dans une situation qui est peut-être plus complexe que chef en cuisine finalement. Même si je pense que c'est pas très facile d'être une chef. D'une chef d'un restaurant. C'est marrant de voir ce que je suis devenue parce que c'est pas si...
Mais il y a un certain parallèle finalement entre le nombre de chefs femmes et le nombre de femmes entrepreneurs.
Absolument, ouais, ça c'est assez triste. Mais chef en général, hein, en fait, ouais. C'est que ce soit en cuisine ou ailleurs.
Il y a un morceau, une musique qui te bouleverse enfin, j'imagine qu'il y en a, oui. Mais c'est celui qui te bouleverse le plus.
Qui me bouleverse. Il y a un morceau qui... Un morceau qui me bouleverse beaucoup en musique classique, c'est la 7e de Beethoven, que beaucoup de gens connaissent. Et alors, c'est assez grand public, je dirais, et je trouve ça complètement normal, parce que pour moi, c'est de la belle musique. Et la première fois où j'ai vraiment monté une production en orchestre, donc à organiser les répétitions et à organiser le concert, et quand le concert est arrivé, j'étais au premier balcon, j'avais une place de choix parce que j'avais choisi cette place, et j'ai pleuré, j'étais tellement contente, c'était tellement beau, c'était magnifique.
Il y avait la double émotion d'avoir été à l'initiative de cette production.
D'avoir accompli quelque chose et d'avoir accompli ça. Enfin, mettre 30 personnes sur un plateau avec des instruments qui ont été faits à la main, enfin, c'était vraiment très émouvant, et les vibrations sont incroyables.
Du coup, chez Nomad Play, vous bossez en musique tout le temps ?
Alors, c'est... non. Non, mais il y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup.
Quelles sont les personnes qui ont marqué ta vie et qui ont été inspirantes pour toi dans la femme que tu es devenue ?
Alors, Angela Merkel ?
Ok.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Mais tu
n'as pas la position des mains quand tu parles.
Non, mais c'est une femme vraiment admirable. On a entendu tout et n'importe quoi et beaucoup de gens, je dirais presque envieux. Mais en tout cas, ce qu'elle a accompli est absolument incroyable. Elle a une vie qui est folle. Enfin, j'ai lu une partie de sa biographie entre son enfance, son adolescence. C'est une carrière qui est complètement... moi, je suis en admiration face à ça. Ensuite, j'ai une personne qui m'accompagne depuis pratiquement le début de l'entreprise, qui s'appelle Laurence Leny, qui travaille chez Orange et qui est toujours à la recherche de nouveaux projets d'innovation. Elle est en relation avec les startups notamment. Elle a beaucoup travaillé dans l'industrie musicale avant cela. Elle a travaillé aussi au rapprochement Deezer et Orange. Et c'est quelqu'un qui a une vision qui est toujours actuelle et aussi avec trois crans d'avance parce qu'elle est auprès de l'innovation justement et des personnes qui cherchent, qui ont des visions et elle est ouverte, elle est vraiment très très ouverte et elle est aussi pas avare de conseils et de partage de sa propre expérience. Et c'est une des premières personnes qui m'a un peu adressé la parole et je la remercie encore. Elle est maintenant à notre board d'ailleurs.
Ah, génial. Y a d'autres personnes à votre board ?
Non, c'est la seule.
C'est la seule.
C'est la seule extérieure pour le moment.
Pour le moment. Tu veux lancer un appel ?
J'ai déjà quelqu'un qui j'ai un monsieur qui m'accompagne beaucoup et qui est très important pour moi, qui s'appelle Arnaud Nourry. Et voilà, donc c'est une équipe qui est assez incroyable d'être entourée par Laurence Leny et Arnaud Nourry. Je pense que je suis bien là, je suis très bien. C'est d'ailleurs un honneur pour moi d'avoir deux profils absolument incroyables et aussi compétents qui prennent du temps pour moi.
En tout cas, de cet échange, on voit que tu sais bien t'entourer.
Ah, c'est-à-dire que c'est eux qui sont entourés aussi de moi. En fait, non, mais ce sont des rencontres à chaque fois. Enfin, je sais pas si c'est de la chance, mais non, c'est des rencontres et des conversations. Et c'est des gens qui sont ouverts aussi, je pense, qui écoutent ce qui se passe autour.
Comment tu te ressources dans cette vie à 1000 à l'heure ?
Je fais tous mes repas. Oui. Et je fais des siestes. On dirait le régime d'un bébé. alors, c'est complètement vrai. Dès que je peux faire une sieste, j'en fais... Enfin, pas dès que je peux faire, mais je fais une sieste par jour.
Du coup, t'as un grand canapé au bureau ?
J'ai un espèce de pouf immonde, mais qui me sert bien, ouais. Mais je suis assez réputée pour ça. C'est-à-dire que même sur mes anciens jobs, je travaillais à l'Opéra de Paris, j'avais un canapé, et c'est « Non, bougez pas, il y a Claudie qui fait sa sieste. » Mais c'est indispensable pour moi.
C'est ton rythme, en fait.
Ah ouais, c'est complètement... Donc, 20 minutes, et ça repart.
Et si tu avais 2 heures de plus par jour, tu ferais quoi ?
Je ferais pas des siestes du coup. Je ferais la cuisine. Ça c'est sûr. Et d'ailleurs,
c'est une manière de t'évader, de penser à autre chose.
Ouais, c'est une manière de m'évader, de penser à autre chose et de partager. C'est-à-dire quand je suis seule, je ne ferais pas la cuisine. Ça m'est arrivé, mais c'était un peu un défi pour moi de me dire tiens, je fais un test avec quelque chose. Mais c'est pour moi c'est partagé. Ça veut dire que je fais généralement des plats assez avec de la quantité, on va dire. Et du coup, c'est vraiment une idée de partage. Donc, je prends du temps pour faire un plat qui va sûrement cuire longtemps, d'ailleurs. Et puis, je me suis... Ouais, je...
Ta best recette ?
Je me suis lancée dans des ramen. Il y a un truc qui m'a vraiment agacée. Il y a une émission absolument très belle sur une plateforme que je ne citerai pas, sur des cuisiniers dans le monde. Et en fait, j'adore cette émission parce que je découvre aussi des gens formidables qui font des fois des choses que je n'apprécie pas plus. Et je me dis, tiens, ça peut être sympa quand même. Genre la pâtisserie, je déteste ça. Et en fait, un jour, il y avait un monsieur qui faisait des ramen qui avait l'air très, très méchant. Et je me suis dit, s'il est méchant et qu'il a fait des bons ramen, je peux en faire aussi.
Donc, tu t'es lancé et c'était bon.
Mais c'est pas si compliqué. Ça se trouve, c'est pas bon. En tous les cas, voilà, non, j'aime bien tenter des choses, faire des mélanges. Mais c'est comme regarder les gens dans la rue. Hein. C'est goûter des choses et les mélanger et faire des choses innovantes.
Wow. C'est quoi ta plus grosse claque, Clotilde ?
Alors, ma plus grosse claque, c'est quand j'ai compris que l'algorithme allait marcher.
Ah ouais ?
Ah ouais, évidemment. Je me lève, j'ai une idée, je vais des chercheurs déjà... on recrute des chercheurs. Alors, c'était pas facile parce qu'il a fallu faire un planning de recherche avec des échéances. À quel moment on se dit qu'on arrête ? Parce que c'est pas probant.
Mais surtout quand, à la base, on n'y connaît rien à cette recherche d'algorithme, j'imagine.
Absolument. C'est-à-dire que là, Anne-Laure s'est lancée à référencer des articles pour voir ce qui existait, l'existant. Et ensuite, on a sollicité des amis. Plutôt mathématiciens, chercheurs, pour avoir leur avis et aussi pour recruter.
Oui. Parce que ça peut être un peu comme un trou noir, en fait, quand on n'est pas de ce milieu-là.
Bah oui, mais après, c'est comme tout. Il faut lire et on se renseigne un peu, ou alors on trouve quelqu'un qui sait le faire à notre place. Enfin, c'est toute cette capacité à déléguer, en fait, finalement. parce que bah, c'est comme quand on fait un album. Hein. Moi, je ne sais pas jouer du violon, mais par contre, on prend quelqu'un qui sait jouer du violon. Mais après, il faut avoir les idées assez claires quand même pour savoir jusqu'où on peut pousser la recherche et le planning et du coup une personne. Donc ça a été un peu audacieux, je vais dire, hein, ce lancement. Et en fait, il a fallu prioriser parce que ça pouvait pas marcher d'un coup sur tous les instruments. On a des instruments très différents dans un orchestre. Et de façon cohérente, j'ai pas dit faut que ça fonctionne surtout. Donc en gros, on a priorisé sur le piano parce que c'était un peu en mode survie puisqu'il y a beaucoup de pianistes sur la terre. Et en fait, quand ça a bien marché, et quand ça a marché sur le violon, là je me suis dit ok, on va y arriver. Et là, je pense que j'ai pleuré vraiment. Et alors ça n'arrive pas souvent, mais il y a eu un vertige comme si ça allait marcher quoi.
Ouais.
Enfin c'était comme si c'était parti. Et c'était parti.
Et ça, c'était au bout de combien de temps ?
Je sais pas, je dirais 3 ans. Ouais. Mais c'était chouette parce que c'était une période qui était très grisante. Et c'était deux garçons, ils étaient si contents. Enfin, c'était génial. On était partis sur un projet et la vague partait, quoi. C'était super.
Il travaille toujours pour Nomad Play aujourd'hui ?
Alors, il y en a un qui a dû partir parce qu'il a passé une thèse. Il y en a un qui est toujours là. On en a recruté 2 autres, dont une femme d'ailleurs. Et ils sont 4.
On arrive aux questions flash de 40 nuances de Sista. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace ?
Alors, c'est une question remarque qui est « Ah, mais dis donc, mais qu'est-ce que t'es courageuse ? Et qu'est-ce que ça m'agace ?» Parce qu'en fait, on dit jamais ça à mes copains. On dit jamais à un copain qu'il est courageux. On lui dit qu'il est intelligent, qu'il a une super idée, que je sais pas, que c'est un génie. On dit jamais à une femme que c'est un génie. Bon, alors, mais alors, du coup, je suis peut-être absolument ni un génie, ça c'est sûr. Mais je veux dire, j'ai peut-être pas une bonne idée d'ailleurs. Mais le courage, c'est vraiment fatigant. C'est comme si, on n'avait pas les capacités pour, mais qu'on y allait quand même.
Ouais.
Il y a un truc qui est un peu vexant. Et quand j'en parle à mes potes, mecs, bah jamais on leur dit qu'ils sont courageux, quoi. C'est normal, en fait, pour eux. Il y a un truc qui est normal.
Et quelle est la question qu'on ne te pose jamais, mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi ?
Alors, finalement, c'est la question que tu as posée tout à l'heure, à savoir sur la musique. Parce qu'en fait, tout le monde est persuadé que je passe ma journée à écouter la musique classique et que je vais au concert uniquement de musique classique. Et en fait, c'est vraiment mettre les gens dans des cases.
Ouais.
Et ça a été un peu le sujet de ma carrière. C'est-à-dire que quand j'avais fait 5 ans dans une maison d'opéra, j'ai postulé sur des musiques actuelles et on m'a dit « Non, vous avez une culture classique. » Je me suis dit « Posez-moi la question, s'il vous plaît. » Et en fait, voilà. Donc, on a l'impression que quelqu'un qui écoute du rap n'a pas de culture classique ou n'a pas de culture métal. Alors, c'est marrant le rap parce que finalement, il y en a beaucoup justement quand je... Enfin, je vais citer MC Solar, mais honnêtement, il avait écouté bien d'autres musiques que le rap pour aboutir sur ce type de chansons et de mélodies qu'il a faites. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que t'écoutes en général et puis de. Ouais, voilà. C'est ça, en fait. C'est d'éviter de mettre des gens dans des cases. Et de penser qu'un sujet va m'ennuyer. Il y a un côté élitiste sur la musique classique où personne ose dire qu'il aime autre chose que ce style-là, quoi. C'est assez curieux.
Donc toi, ton ambition, c'est de désacraliser ça aussi.
Ah mais complètement. Mais en fait, l'idée de Nomad Play, c'est qu'on peut jouer de la musique classique en pyjama dans sa chambre quand même. Donc on va loin dans l'idée, quoi.
Ou en jogging,
ou en tongs, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche. C'est simplement de se dire, mais c'est de la musique, en fait. C'est de la musique, et pour la musique, il faut des oreilles. Donc clairement, si je pouvais faire quelque chose, et d'ailleurs il y a des choses qui existent hein, pour les personnes qui n'entendent pas, mais c'est le seul sujet. À partir du moment où on a des oreilles qui fonctionnent un minimum, on peut écouter de la musique classique comme on écoute de la musique actuelle, du rap, du métal. C'est juste des émotions qui passent par les oreilles. Faut pas avoir 40 ans de conservatoire pour entrer dans une salle.
On arrive vers la fin de cette émission et ma dernière question, c'est si toi Clotilde, tu avais dû choisir une sista, donc une femme entrepreneur que t'admires, t'aurais choisi qui ?
Alors moi, je vais citer Julie Chapon, qui a fondé Yuka. Alors c'est une application que je trouve complètement admirable, qui permet, mais je pense que beaucoup de gens la connaissent, qui permet de voir les indices énergétiques et aussi les indices justement qui nous permettent de savoir s'il y a trop de sucre dans un aliment ou trop de lipides ou assez de protéines. Et c'est une appli qui est gratuite. C'est une appli qui recense beaucoup, beaucoup d'aliments. C'est absolument magique. Je me souviens très bien, c'est ma mère qui m'a fait découvrir ça il y a au moins 5 ou 6 ans en me disant « Mais c'est génial, j'ai regardé ça sur Youcash, sur notre plante, de quoi tu parles ?» et c'est parti. Tout le monde parlait de Youcash à un moment donné et on parle encore. Et je trouve ça incroyable le travail qui a été fait sur cette application. Et je trouve ça aussi admirable en ce moment ce qui se passe parce qu'elle se bat, et elle et son équipe, contre de gros et importants lobbying de l'industrie alimentaire. Et là, c'est un combat à ce niveau-là. C'est vraiment un combat. À côté, c'est un exemple. C'est vraiment super. D'ailleurs, elle a lancé une campagne de participation au procès qu'éventuellement ils vont mener contre les lobbying. Enfin, je pense
une cagnotte qui a été lancée sur Litchi.
Sur Litchi, et je ne peux que dire de participer.
Merci Clotilde. Et merci pour cet entretien. Et n'hésitez pas à aller voir Nomad Play. C'est totalement révolutionnaire.
Absolument. Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.